Bonjour à chacun. J'aimerais qu'on puisse ouvrir la parole du Seigneur sans tarder sur une histoire. On va pas la lire en entier. On va lire quelques textes. Les chants préparent très très bien ce que j'avais prévu d'apporter ce soir. Et dans l'évangile de Luc au chapitre 7, il y a l'histoire de Simon, un pharisien qui invite Jésus chez lui, et alors qu'il invite le Seigneur, eh bien, il y a une femme pécheresse qui est là, et elle pleure sur elle, et elle mouille les pieds du Seigneur d'un parfum. Et le pharisien Simon est outré. Et j'aimerais lire à partir du verset 40. Et vous pourrez mettre votre prénom si vous voulez. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Le Seigneur a quelque chose à nous dire ce soir. Il a quelque chose à te dire ce soir. Que votre réponse de votre cœur, je l'espère, est la même que la sienne. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs, et l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous les deux. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle, elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. » Et c'est sur cette dernière phrase que j'aimerais m'arrêter ce soir. Celui qui pardonne peu, aime peu. On a vu ces derniers dimanches que l'importance d'être sous la tête pour que l'onction du Seigneur puisse couler sur le corps. Nous sommes membres du corps de Christ. Et finalement, il nous faut, entre guillemets, être un avec lui, de même que l'apôtre Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ, je suis crucifié avec Christ au présent, comme pour dire chaque jour, je le suis. Et il dit que Christ vit en lui, et finalement, il y a quelque chose de commun, il y a vraiment une communion où il y a l'apôtre Paul qui est conscient de qui il est, mais il est conscient aussi du Seigneur Jésus, et les deux se mélangent. Comment se mélangent-ils ? Par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit qui ainsi est en nous et qui nous permet d'autant plus d'avoir à cœur de nous consacrer. Seulement, je ne sais pas ce soir, qui, parmi tous ceux que nous sommes, lesquels ont accepté Jésus pour sauveur seulement. Et là, c'est sûr que la notion de consécration, d'amour, je n'ai que toi, on en est loin. Parce que quand on chante ces paroles, forcément, on a à cœur dans notre vie de la dédier au Seigneur. On a à cœur de le suivre, quoi qu'il en coûte, de faire ce qu'il veut dans notre vie. Et on n'a pas d'autre désir, d'ailleurs, que de faire en sorte que le Seigneur Jésus règne sur notre vie. Et quand on en arrive à cette décision, eh bien, le Seigneur, par son Esprit, nous remplit. Vraiment, il nous remplit. Et on peut goûter ainsi à la douce présence du Seigneur en nous. Et on peut expérimenter chaque jour de notre vie les bienfaits de la présence, la douce présence du Saint-Esprit dans nos vies. Seulement, l'importance de se consacrer est capitale. L'importance de faire de Jésus notre Seigneur est capitale. Si on ne comprend pas ça, on ne pourra pas aller plus loin, on ne pourra pas expérimenter la présence du Saint-Esprit dans notre cœur. Ici, on a une histoire où Jésus dit « Celui à qui on pardonne peu, aime peu ». J'aimerais que cette prédication puisse vous servir, c'est ma prière. à aimer plus le Seigneur. Parce que c'est vrai, c'est une réalité, c'est une loi. Quand on n'a pas bien compris le sens du sacrifice du Seigneur, comment on va pouvoir l'aimer comme il faut ? Comment on va avoir ainsi à cœur de donner notre vie à lui, de lui donner notre vie, de consacrer notre vie, si nous-mêmes déjà, on a compris que partiellement ce qu'il a fait, que si on a compris que partiellement l'œuvre de Jésus, si on n'a pas bien compris, si on n'a pas réussi à bien mesurer la valeur du sacrifice du Seigneur Jésus, comment pourrons-nous nous consacrer ? Comment pourrons-nous vérifier cette loi-là ? On ne pourra pas aimer Dieu de cet amour-là qui va nous amener loin, qui va nous amener à vouloir le connaître davantage, de là à ce que ça devienne même une priorité dans notre vie. Pour en arriver là, il faut avoir mesuré toute l'importance du sacrifice du Seigneur Jésus à la croix. Et comme l'apôtre Paul disait qu'il prêchait Christ crucifié, ce soir j'avais à cœur vraiment de parler de ça. Qu'on puisse comprendre, aller peut-être un peu plus loin, réaliser encore un peu plus combien il nous a aimés. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est par amour pour nous. On pourrait prendre dans 1 Corinthiens, au chapitre 13. 1 Corinthiens, au chapitre 13. On y voit là justement la définition que l'apôtre Paul nous donne de l'amour. Mais c'est important quand on réalise que ce que l'apôtre Paul écrit, le Seigneur Jésus le vivait. Du verset 4 au verset 7, on a là tout ce qui a été le moteur du Seigneur. L'amour est patient. L'amour est serviable. Jésus a dit, je suis comme celui qui sert. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas alors qu'il est sur la croix, qu'il est insulté. Il prie, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne bénit pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Et je crois que le chemin que notre Seigneur a ouvert, il n'y a que lui qui pouvait le faire. C'est évident. Mais quand on réalise que c'est alimenté par cet amour qu'il avait des hommes et des femmes, on comprend qu'il ait pu aller jusque-là. Qu'a fait le Seigneur Jésus à la croix ? L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. La croix, c'est le moment où il fait l'expiation, où il obtient le pardon de nos péchés. Mais ensuite, la croix, c'est aussi un holocauste. C'est une vie entièrement livrée. Et le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, sa vie était entièrement livrée. Sur la croix, Christ a été dépouillé de tout, brisé, anéanti. Il est venu pour faire intégralement la volonté du Père. Et en parlant d'Holocauste, j'aimerais qu'on puisse faire un petit saut dans le livre du Lévitique. Dans le Lévitique, au chapitre 9, on y voit le moment où justement Aaron vient d'être consacré. Au chapitre 9 et au verset 22, on y voit le moment où le huitième jour, pendant, il fallait attendre et rester près de la tente d'assignation pendant 7 jours. Et le huitième jour, on a quelque chose de très intéressant qui est une ombre de la réalité que Jésus a accomplie. Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit, puis il descendit après avoir accompli le sacrifice pour le péché, la croix, l'holocauste et le sacrifice de communion. Tout ça, c'est la croix. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Un feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent face contre terre. On a entendu dimanche dernier que nous voulions justement bénéficier de cette onction de Dieu, de cette puissance du Saint-Esprit. Et on a ici, en nombre, ce que le Seigneur a fait. Il est mort sur la croix du calvaire. Ensuite, il est monté au ciel, auprès de Dieu. C'est le moment où Moïse et Aaron entrent dans la tente. Et ensuite, la gloire de Dieu a été visible. Parce qu'un feu du ciel est descendu. Sur qui ? Sur les apôtres. Ainsi, l'œuvre qui a commencé à la croix s'est poursuivie jusqu'au moment où les apôtres se retrouvent sous le feu du ciel, la glorieuse présence du Saint-Esprit sur leur vie. Et c'est ainsi qu'à travers ce moment-là précis, le Saint-Esprit va... Ici, représenté par les flammes de feu, on connaît cette expérience ici, c'est l'image du feu qui descend, qui consume l'Holocauste. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'Éternel consume l'Holocauste, ça veut dire qu'il y a une approbation. Est-ce que c'est pas ces mots-là qu'on entend régulièrement ici? On cherche l'approbation de Dieu, on veut l'approbation de Dieu, on veut que le Saint-Esprit descende. Mais le Saint-Esprit ne pourra descendre qu'à partir du moment où l'Holocauste qui a été commencé par le Seigneur Jésus sur la croix, se poursuit en moi. On pourrait juste regarder dans le livre de la Genèse. Je l'ai regardé vite fait en introduction, mais on peut en reparler un petit peu. Genèse au chapitre 22. Le moment où Abraham amène Isaac, il va l'amener sur l'autel. Isaac va se retrouver lié sur l'autel. Le couteau sera pas loin de sa gorge. Genèse chapitre 22. Au verset 10, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici ». L'ange dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Ici, à travers ce sacrifice d'Isaac, quand est-ce que le sacrifice a commencé ? Par Isaac. Isaac se retrouve sur l'autel. Le couteau est sur le point d'être sur sa gorge. Et Dieu lui dit, non, 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 ne touche pas. Le Seigneur Jésus, lui aussi, est mort sur la croix. Il est allé sur la croix. Mais le feu n'est pas tombé sur la croix. Le feu est tombé sur les apôtres. C'est l'image du bélier qui suit. Ainsi, le sacrifice du Seigneur a été commencé à la croix du calvaire. Mais ce même sacrifice, cet holocauste-là, il doit se poursuivre dans nos cœurs. Et c'est seulement si dans mon cœur, il y a cette consécration, ce désir vraiment de connaître Dieu toujours plus, ce désir de voir ma vie consacrée à celui qui a tout donné pour moi, que je pourrai expérimenter le feu du ciel. Ce feu du ciel qui va descendre, cet holocauste qui est l'approbation de Dieu. Le feu a été sur le bélier, pas sur Isaac. Le feu a été sur les apôtres, pas sur Jésus. Je ne dis pas que Jésus n'était pas rempli du Saint-Esprit. C'est pas pareil, l'image est différente. Ici, il y a le feu parce qu'il y a aussi cette approbation divine. Mais comment en arriver là ? Comment se consacrer? Comment se dire, mais Seigneur, j'aimerais bien me consacrer, mais j'y comprends rien. Seigneur, j'aimerais bien me consacrer, mais j'arrive même pas à bien saisir ce que tu as fait pour moi. Alors j'aimerais peut-être ensemble, on va regarder un petit peu le prix de ce qu'a vécu Jésus. Le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, il était motivé par son amour. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est son amour qui va faire que finalement, on l'a plus ou moins chanté, que Jésus a été pressé. Il a été pressé. Où ça? À Gethsémané. Il savait. Il est à Gethsémané, il est en agonie, en proie aux angoisses. Luc nous dit qu'il transpire du sang, parce que quand il pense à ce qui va lui arriver le lendemain, on peut comprendre quand même que le corps commence à craindre, le corps commence à s'exciter, à stresser, à se retrouver angoissé. Et ici, le Seigneur, il est dans ce moment terrible où il sait ce qu'il va vivre le lendemain. Et pourtant, il demande au Seigneur d'être fortifié pour pouvoir aller jusqu'au bout, parce que il avait aussi dans l'esprit l'amour qu'il avait pour nous. Qu'a vécu Jésus? Le Seigneur, il a vécu ce moment déjà qui était terrible. Quand on saigne du sang, c'est que le cœur va lâcher vraiment. Donc déjà là, ça commence à pas aller bien. Jésus a fait une nuit blanche. Ça, on a tendance à l'oublier, mais après une nuit blanche, on n'est pas aussi frais que quand on a dormi. Il a été flagellé. J'aimerais qu'on lise ensemble un verset, deux versets. Ésaïe 50, verset 6. Ça, c'est pour montrer l'attitude de Jésus. Ésaïe 50, verset 6. Ce genre de verset, c'est bien de le lire. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. Psaume 129, verset 3. Et vous allez voir à quel point l'image reflète d'un point de vue, de toute façon c'était prévu, c'est Dieu qui l'a permis, c'est une prophétie qui s'est réalisée ce jour-là. Psaume 129, verset 3. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. Je ne sais pas si on réalise tout ce qu'il y a dans ce verset. Imaginez la herse qui est en terre, et qui est tiré par les bœufs, et qui, elle, comme l'hameçon, qui, vous êtes déjà mis un hameçon sur le doigt, ou quand on tire dessus, ça fait mal. Les fouets des Romains, ils étaient équipés de billes en métal, et ils s'en donnaient à cœur joie. Et vous avez vu dans le verset 3, c'est pas écrit un laboureur, c'est écrit des laboureurs. Autrement dit, les soldats romains s'en sont donnés à cœur joie. Il n'a pas eu que 39 coups, moins un, il en a eu probablement beaucoup plus. Ce qui fait qu'il a succombé bien avant les deux autres. Quel effet ça fait d'être ainsi flagellé? Il y a des entailles partout le dos. Ça saigne de partout. Mais c'est surtout que, à force de coupures, le dos commence à se déchirer derrière. Dans certains cas, la colonne vertébrale sort. Je dis ça pour qu'on réalise les souffrances que c'est les siennes. Ça a duré longtemps. Et suite à ce moment-là, il perd tellement de sang qu'il en arrive dans un état particulier où il est pris d'une très très grande soif et en même temps, il ne peut plus pratiquement bouger. Son corps retient tout le liquide possible parce que il n'y a plus de sang. Le cœur pompe le peu de sang qui reste, et du coup, les battements du cœur sont d'une force incroyable. Il est flagellé de cette manière. Ensuite, il y a un manteau de pourpre qui lui est mis dessus. On le lui arrache. Vous avez déjà essayé d'arracher des pansements sur une plaie qui est vive? Ça fait mal. Le Seigneur Jésus, c'est ça. Lui, c'était tout son dos. Le manteau était collé à lui. Ils ont bien laissé le temps au manteau de bien se coller. Ensuite, Jésus va porter sa croix. Il va commencer à la porter, mais il est tellement mal qu'il va falloir que quelqu'un d'autre la porte à sa place. C'est écrit dans le psaume 22. Les conséquences de la flagellation, on les lit. C'est prophétisé, tout est prophétisé. Si excusez-moi de ce que je lis, mais ce que je dis, c'est la Bible aussi qui le dit. Psaume 22, 15. Si Dieu a voulu qu'on le sache, c'est pour qu'on puisse mesurer l'importance de ce qu'il a fait par amour pour nous. Et j'insiste là-dessus. Psaume 22, verset 15. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Pourquoi la langue s'attache? Parce qu'il a perdu tout son sang, il n'a plus rien. Jean 19, 28, quand il est sur la croix, Jésus lui-même confirme cet état-là en disant lui-même qu'il a soif. Il n'a pas dit qu'il avait soif pour vérifier que la prophétie serait accomplie. Il avait vraiment super soif, parce qu'il fallait combler tout le sang qui était sorti. Il avait besoin de boire, absolument. C'était une question de vie ou de mort. Ensuite, Jésus va aller sur la croix. Alors qu'il va sur la croix, il a ce dos ainsi. L'épreuve est longue. Et on va le clouer sur sa croix. Est-ce que vous vous êtes déjà cogné le coude, là, comme ça, sur un... Ça fait mal, ça. Ça fait la même douleur, mais en continu, et en plus intense. Je sais que quand on se cogne le coude, là, souvent, on sent dans tout le bras, après, ça, et ça met du temps à partir. Le Seigneur Jésus, quand on lui a planté ses clous, c'est cette douleur-là que ça lui a fait. Et ça a duré longtemps. Ça lui a fait sur les bras, ça lui a fait sur les pieds. La douleur était insupportable, au point que les médecins qui se sont penchés sur des cas comme cela n'ont pas trouvé d'autre mot que de dire, pour qualifier l'intensité de la douleur, c'est une douleur crucifiante. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Il est attaché sur la croix. On va le hisser sur la croix. Et quand il va être hissé sur la croix, ses membres, ses bras vont se disloquer, ça va s'allonger de 15 cm environ, et ses épaules vont se démettre. Ça aussi, c'est écrit, regardez, psaume 22, verset 14. Ils ouvrent contre moi leur gueule, comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Pour ceux qui ont déjà eu une luxation ou une fracture de la clavicule, vous comprendrez que ça fait pas du bien non plus. La mort sur la croix, elle est lente et atroce, parce qu'à chaque fois qu'il veut expirer, il est obligé de se lever, de prendre appui sur les clous, ce qui fait qu'il se retrouve serré et qu'il a à nouveau ses douleurs, comme quand on se cogne le coude. Et il va finir par mourir par asphyxie. Quand il se remonte, alors que son dos est flagellé, son dos frotte contre la croix, qui est aussi rugueuse, les écharpes dans la chair, nous, ça nous fait mal. Imaginez tout le dos alors qu'il est à vif. Voilà tout ça. Tout ça, il a... Pourquoi je donne toute cette description? Pour parler de torture? Non. Pour qu'on puisse mesurer à quel point. Et ça, c'est qu'une indication. C'est qu'une indication, parce que c'est la souffrance physique. Mais il y a la souffrance morale, spirituelle du Seigneur. Quand il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Celle-ci est peut-être d'autant plus supérieure encore à la souffrance physique qu'il est en train d'avoir. Il a tout fait ça parce qu'il nous aimait. Voilà de quel amour il nous a aimés. C'est impossible d'un point de vue humain d'accepter d'aller de soi-même vivre une souffrance pareille. C'est inhumain, c'est divin. Le Seigneur lui-même, le seul qui pouvait vivre ces choses, il l'a fait pour nous. Il l'a fait parce qu'il m'aime, il l'a fait parce qu'il t'aime, il l'a fait parce qu'il nous aime tous et il nous veut auprès de lui. Et c'était la seule solution pour qu'on puisse être réconciliés avec Dieu. Et nous, on entend ces choses, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte de ces choses. Et nous, on reste toujours les yeux fixés sur nos petits bobos du moment, alors que lui, il a absolument tout donné. Il a tout donné, il ne s'est pas retenu. Comment l'aimer sans réaliser tout ce qu'a été le prix de ce qu'il a fait pour nous? C'est lui-même qui s'est livré, et c'est Isaïe qui le dit. Il n'a pas bronché, on l'a amené comme un agneau à la boucherie. Le mot boucherie, ça veut dire ce que ça veut dire. Les Romains ne faisaient pas dans le détail. Mais dans Isaïe, au chapitre 53, il est aussi question des souffrances, de nos souffrances. Qui l'a porté? De nos douleurs. Qui il s'est chargé? Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment qui te donne la paix est tombé non sur toi, mais sur lui. Parce que lui a vécu tout ça, nous on peut avoir la paix de Dieu juste en croyant qu'il l'a fait parce qu'il nous aimait. Il a été maltraité. Ses meurtrissures nous montrent que c'est par elles que nous sommes guéris, dit Isaïe. Donc nous, on n'a pas à les subir. Lui les a subis pour nous. Et par elles, il y a la guérison. Par elles, il y a la paix. Par elles, il y a une vie merveilleuse qui nous attend pour celui, pour celle qui comprend de quel amour Dieu l'a aimé. La part la plus difficile, elle a été faite par le Seigneur. C'est lui qui a fait le plus grand morceau du chemin. Mais comment nous, on doit réagir? L'apôtre Paul dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Cet amour désintéressé, cette humilité, ne pas chercher... Nous, on est là avec notre petite guerre de clochers ou nos petites guerres internes. On essaye de tirer la couverture, on essaye de s'en tirer à bon compte. Mais c'est pas ça. L'humilité, c'est quand on met l'autre en premier. C'est quand on a un amour désintéressé. C'est quand on est obéissant comme Jésus a été obéissant jusqu'à la croix. Et l'apôtre Paul, il va écrire ces paroles. On va les lire ensemble dans 2 Corinthiens au chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. On voit que quelque part, l'apôtre Paul s'applique à lui-même ce que Jésus a traversé, et il dit ceci, et il ne le disait pas pour qu'on puisse dire de lui qu'il était comme Jésus, il le disait parce qu'il le vivait. L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Verset 15, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Quelle réaction je dois avoir quand je réalise vraiment tout ce qu'il a souffert pour moi? C'est pas simplement de me réconcilier avec Dieu quand je dis « Oui Seigneur, merci parce que tu as pardonné mes péchés ». Non, ça va plus loin. Quand on a compris vraiment tout ce que Jésus a fait pour nous, quoi de plus naturel que de lui donner notre vie? Je crois que c'est ce que nous avons mieux à faire. Et d'ailleurs, à celui qui consacre sa vie, à celui qui choisit dans son cœur de donner sa vie à Dieu, eh bien, il vit quelque chose de merveilleux avec Dieu. Parce que Dieu va pouvoir donner son approbation. Il va pouvoir vraiment se manifester à travers la personne qui choisit de se consacrer à celui qui a tout donné pour elle. Et il va envoyer le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui nous permet d'avoir cette joie parfaite. Jésus disait, « Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite, celle du Saint-Esprit. » Jacques, il dit aussi ça, le bonheur d'avoir cette vie qui appartient à Dieu, cette vie de consécration, cette vie qui finalement amène le chrétien à plonger ses regards dans la parole pour le connaître davantage, parce que c'est devenu un objectif numéro un dans la vie. Et Jacques dit ceci, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jésus a tout pris sur lui. Nous, il nous reste simplement de nous approcher de Dieu et de bénéficier de tout ce que nous permet d'obtenir l'œuvre du Seigneur à la croix. Le Saint-Esprit qui nous donne la paix. Dans Philippiens chapitre 4, verset 8, Paul écrit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. » Le Seigneur veut qu'on soit dans la paix. Et celui, j'aimerais, peut-être quelqu'un n'avait jamais compris ces choses et se disait, mais oui, mais si je m'engage, si je me consacre, je pourrais plus faire ça, je pourrais plus être comme ça. Mais on regarde, c'est comme quelqu'un, je le partageais dimanche, c'est comme quelqu'un qui est dans une prison, une cellule tout confort, que le diable essaie de lui dire, mais t'es bien dans ta prison, t'as un canapé, t'as la super télé HD, tu as la console de jeu, t'as la machine à café, t'as tout, t'es bien, pourquoi tu veux sortir? Ben, c'est quand même une cellule de prison. Celui qui comprend qu'en se consacrant à Dieu, il a la liberté, la vraie liberté. Celui qui se consacre, celui qui choisit de donner sa vie à Dieu, mais pour le suivre, eh bien, la porte de la cellule est ouverte, il n'y a plus qu'à sortir. Et le monde extérieur est à portée de main. J'aimerais qu'on puisse se recueillir quelques instants. Peut-être que ce message vous fait réaliser que vous ne vous êtes jamais intéressé à la vraie vie du chrétien. Vous étiez peut-être repenti, mais vous n'étiez pas converti. Vous n'aviez jamais compris ce que le Seigneur avait fait pour vous. Et peut-être que vous vous êtes dit que vous ne pouviez pas comprendre son amour. Je ne sais pas si, à la lumière de ce qu'on a vu ce soir, vous comprenez un peu mieux quelles étaient ses souffrances. Et on n'a dressé qu'une toute petite partie du tableau. Peut-être que dans votre cœur, vous êtes travaillé et que vous voulez crier à Dieu et lui demander son aide pour que vous puissiez avoir cette vie qui lui est agréable, cette vie qui lui est conforme, cette vie qui vous permettra, par la grâce de Dieu, de connaître cette paix, cette joie parfaite, parce que Jésus a tout souffert pour vous, à votre place. Il a pris cette condamnation à votre place. Et j'aimerais proposer à celui, à celle qui désire et qui réalise qu'il a besoin de la grâce de Dieu pour s'engager encore plus dans les voies du Seigneur, qu'il réalise que oui, il y a beaucoup à gagner quand on s'engage pour le Seigneur, parce que lui aussi il s'engage et il donne son approbation, le Saint-Esprit descend, la paix de Dieu est là, la joie de Dieu est là, et Dieu n'a pas d'autre désir que de vous la donner ce soir. Et j'aimerais vraiment que ce soit pas une occasion de perdue, mais que tu puisses demander à Dieu, que tu puisses implorer le secours du Seigneur. Parce que toutes ces souffrances, il les a vécues parce qu'il vous aime. Et rien d'autre. Que le Seigneur vous bénisse.